essentiels de Décibel. Émilie Mazoyer et Liane Folly.
Une chanteuse qui a décidé de partager avec vous sa vie.
On a tous le droit d'aimer sa vie ou pas, de faire sa route, de faire son choix.
C'est non, ses questions, sa vie, sa route, ses choix. Liane Folly raconte tout dans La Droguerie du Sourire qui vient de paraître aux éditions Stock. Et elle est ce soir l'invitée de Décibel. Préparez-vous à la rencontrer de nouveau. Bonsoir Liane.
Bonsoir Émilie.
Comment ça va?
Très bien, je suis ravie en tout cas de... Alors comment on fait? Parce que c'est... Dans la vie on se tutoie. Et bon, on va se tutoyer, tu sais quoi, on va bousculer un peu les codes. Parce
Allez.
Que moi ça me dérange de vous voyer
si. Alors on se tutoie.
Voilà, c'est mieux.
Alors
voilà.
On se tutoie.
On
Alors,
décide.
Je te félicite pour ce livre.
Merci.
La Droguerie du Sourire qui vient de sortir aux éditions Stock. Parce qu'il est émouvant et surprenant. Ce livre, vraiment, on a l'impression de te redécouvrir. Tu expliques au tout début, d'ailleurs, pourquoi est-ce que tu as hésité avant de te raconter. Et finalement, c'est un choix très réfléchi. C'est pour le public.
Absolument. Et puis surtout, je dis que je fais mon métier comme mes parents ouvraient la Droguerie du Sourire. Ce qui explique aussi le... Je fais un métier que j'aime, mais surtout qui m'ont inculqué.
Ouais.
Ils ont tout fait, mes parents, pour me pousser vers l'artistique. Et c'est un livre aussi, c'est un hommage. Et je voulais vraiment leur donner beaucoup d'amour encore, évidemment, à travers ce livre. Et puis, j'ai quand même un parcours assez atypique, quand même.
Ah, c'est vrai, mais eux aussi. Oui. Et ce livre, c'est vraiment une déclaration d'amour à tes parents. Tu choisis de démarrer ce bouquin à l'année 2015, assez unanimement reconnue comme vraiment une année de merde. C'est-à-dire qu'il commence avec les attentats de Charlie Hebdo, on termine avec le
Exactement.
Bataclan. Et toi, au milieu, en quelques semaines, tu perds tes deux parents. Le livre commence comme ça, on est désolé pour toi. Et en fait, plus on tourne les pages et plus nos cœurs se brisent, parce qu'en fait, on se rend compte que tes parents, c'était des gens merveilleux qui t'ont donné une enfance tellement pleine d'amour, tellement pleine de joie.
Oui, et puis eux avaient connu la guerre, parce que moi, j'ai été conçue finalement pendant la guerre d'Algérie, en avril 62. Ils se sont même séparés. Enfin, c'est tout, c'est romanesque. Hein.
Ah, c'est un film. Déjà, l'histoire de tes parents, c'est un film, et ton histoire aussi. On a déjà deux films.
Et donc, oui, c'est ça. Et donc, dans un camp de pieds noirs pour ma maman qui est enceinte de moi, etc. Donc, quand j'arrive, moi, j'arrive quand même avec des parents qui sont détruits, en quelque sorte, et dans la misère. Et il faut se reconstruire. Il faut la force de ça. Alors, il l'avait. Et puis, alors moi, j'arrive, je suis une petite fille, au contraire, qui a plein de joie de vivre.
Ouais.
C'est complètement paradoxal, en fait. Et puis, je salue leur courage, leur... voilà, ils m'ont appris énormément de vertus, et c'était des gens travailleurs, courageux, et surtout, ils aimaient les autres. Ils étaient altruistes et modernes, ce qui n'est pas toujours évident. Voilà, oui, en quelque sorte, ce qui n'exempte pas non plus des carences existentielles, hein.
Évidemment.
Et la barre très haute, tu sais, quand tu es avec un couple qui s'aime autant.
Oui.
T'aimerais bien les imiter et puis t'y arrives pas. Et voilà, tu n'entres de j'y arriverai pas, mais 60 ans de vie commune, d'amour, de, tu vois ce que je veux dire.
Ouais.
C'est aussi ce truc-là, je crois, qui était un petit challenge quelque part et que je n'ai pas réussi, mais j'ai réussi d'autres choses.
Quand on lit ce livre, parfois on te reconnaît, parfois, je le disais tout à l'heure, on te redécouvre, on te re-rencontre. Il y a une phrase qui m'a marquée, tu dis « je n'ai pas d'ennemis ». Par exemple.
Ouais.
Ça, c'est quelque chose que tes parents t'ont inculqué.
Oui.
C'est toi, c'est ta personnalité, t'es comme ça. Tu n'as pas d'ennemis.
Moi-même, non. Peut-être que.
Oui,
il
y a peut-être des gens qui ne peuvent pas t'encadrer.
L'ennemi. Oui. Ah, mais il y en a beaucoup, évidemment.
Mais,
c'est ce qui est tout à fait normal.
Mais toi, ton cerveau, ton cœur est foutu d'une telle façon que tu ne détestes pas.
Ah non, je ne peux pas. Je ne peux pas dénigrer quelqu'un. Je ne peux pas. Je veux dire, quand je sens que ça ne va pas et que ce n'est pas fluide, eh bien, je m'en vais. Mais je veux dire, je ne peux pas garder. Je suis quelqu'un de très fidèle, de loyal. Donc, je ne peux pas. Je passe à autre chose très rapidement. Mais dans l'amour, en amitié, dans tous dans tous les domaines.
Alors, ça, tu l'as souvent dit, hein, que tu étais artiste et que tu n'avais jamais envisagé de faire autre chose de ta vie. Et là, dans le livre, on apprend que, il n'y a pas mal mal de gens hein, qui pensaient la même chose, notamment le docteur Canova, oui. Voilà, qui était l'obstétricien le jour de ta naissance et qui a dit à ta maman, votre fille a des cordes vocales en acier, je vous le dis, elle sera chanteuse. Oui. Et puis quelques pages plus loin, c'est ta grand-mère, Mémé, qui dit, quand tu seras grande, tu seras chanteuse comme Sheila.
Exactement, elle adorait cette chanteuse. Et elle avait des photos dans sa chambre, elle écoutait les 10 du matin au soir et c'est vrai, elle adorait. Et puis elle a eu raison, parce que quelle carrière magnifique Sheila a fait plus tard.
Oui, tu le dis, c'était sympa. Oui. Tu...
Non, c'est pas être sympa, c'est de se reconnaître les choses. Ça a été une artiste exceptionnelle. En France, elle a marqué des générations et je trouve ça fabuleux. Voilà, de 80 ans, je veux encore être sur scène, avoir la pêche qu'elle a, etc. Je trouve ça formidable. Voilà.
Oui, non, mais quand je dis que t'es sympa, c'est que dans le livre, en fait, donc, tu racontes ta vie, mais en fait, tu parles beaucoup des autres, des autres artistes et voilà, dans tout les mémoires d'artistes, c'est pas forcément le cas.
Donc voilà, oui,
je relevais ça, Liane, que voilà, il y avait quand même.
Bien sûr, il y a toujours le remerciement qui arrive parce que je pense que en étant une fille de commerçant, c'est le premier mot que j'ai appris.
Merci. Hein,
donc oui, bonjour, merci, être poli. Ouais. Quand on est fille de commerçant, on a quand même une on a quelque chose à tenir. Mais c'est vrai que quand je parle de cocon, la gentillesse, la bienveillance, l'amour, bon ben, j'ai eu ces armes-là, ce qui n'est pas mal. Mais ensuite, pour entrer dans la jungle qui est la vraie vie, c'est pour ça que je dis à un moment donné, je parle de notre naissance et je dis, c'est un peu après que tout se gâte. Ouais. C'est la vérité. Et quand moi, j'ai eu l'impression, en tout cas, quand je suis rentrée dans le vrai monde, c'est-à-dire l'école, et on le sent, parce que je raconte des choses qui m'ont marquée et traumatisée.
Même. Ah oui, oui, il y a voilà, des trucs passages durs pour des enfants.
Oui, ouais. Non, mais de l'école qui marque vraiment. Et tout d'un coup se dire waouh, ah bah c'est tout le monde ne m'aime pas alors finalement. et de réagir ça, même de réaliser ça, pardon, même quand on est une petite fille ou une adolescente, mais quand on a quand même ce socle qui est capital, qui est essentiel pour se construire, eh bien, c'est évidemment que c'est mieux.
Et on sent que cette famille, c'est un socle hyper important, parce qu'en fait, quel que soit l'épisode de ta vie que tu racontes dans ce livre, ils sont jamais très loin, ton frère, tes parents, etc.
Sûr.
Voilà, ils sont là du début à la fin. Et juste les remerciements, ça me fait penser qu'il y a même un moment dans le livre où tu t'arrêtes et tu dis, vous allez peut-être penser, vous qui lisez, parce que vous adressez à nous, c'est très drôle. Tu t'adresses à nous, tu t'adresses au lecteur. Vous allez peut-être penser que je remercie beaucoup. Alors, je vous explique.
Mais parce que c'est vrai.
Oui, je remercie. C'était vraiment rigolo ça.
Oui, parce que j'aime bien aussi ce côté-là et il est vrai que je l'ai construit ce livre d'une façon très cinématographique.
Oui.
Je voulais qu'on ait les musées, qu'on ait les images de tout ça, parce que moi elles sont encore très présentes. Moi, il suffit de fermer les yeux, la droguerie, je la vois, je suis encore dedans en fait.
Elle est sur la quatrième de couverture.
Ouais.
Donc c'était vraiment le magasin de tes parents, droguerie du sourire.
Exactement.
C'est vrai.
Oui, c'est une histoire vraie.
C'est fou.
Et donc ce cheminement incroyable, mais je crois que j'ai été comme une alors je dis pas mission, ça fait très Star Wars, mais ce que je veux dire c'est que j'ai été consciente d'avoir des parents qui avaient énormément de chagrin, qui avaient été détruits, donc de la guerre, tout ça, et moi je voulais un peu sauver tout le monde, je voulais être un peu Zorro quoi, et le fait d'avoir réussi entre guillemets cette carrière d'artiste, je savais qu'il y avait que ça qui pouvait vraiment les combler, et quand je l'ai fait, ben c'est ouf, ça y est, je l'ai fait. Puis après, de toute façon, au moment où ça a démarré, j'ai pas arrêté de les gâter. Je n'ai aucun regret de ce côté-là, parce que mes parents, ils ont tout eu. C'était le roi et la reine.
Ouais,
je leur ai tout offert parce que c'était pour moi une façon de les remercier.
En tout cas, tout le début du livre leur est consacré à eux, à leur histoire.
Oui, leur rencontre aussi.
Leur rencontre, la première, puis deuxième demande en mariage, parce que...
Oui, elle était jeune, ils se sont rencontrés, elle avait 14 ans.
C'est ça, voilà.
Donc mon père en avait 19, et puis bon, il s'est fait un peu virer par mon grand-père. Et puis il est revenu 2 ans après en ayant fait le service militaire. Mais c'est vrai aussi que il avait une droguerie aussi,
à Oran,
à la cité Gambetta. Il avait une droguerie et donc il adorait ça, c'était son métier.
Liane, t'as écrit tes mémoires, t'aurais pu ne pas les écrire. On apprend dans le livre qu'en fait le biographe de Nougaro t'avait proposé de les
Absolument,
écrire pour toi.
Bien sûr, c'est Alain Vaudrasca.
Ouais.
On est devenus très amis tous les deux et bon, on s'est vu, on a commencé à faire le travail. Et puis je me suis rendu compte que voilà, on discutait ensemble, etc. Ensuite, il écrivait des choses, il me disait, voyez, je dis, non, non, je veux pas, je veux
c'était
pas.
C'était pas ta voix, en
non,
fait.
Non, c'était pas, bah, c'était pas mon histoire, c'était pas. Ouais. Et puis, comme j'ai toujours aussi tout écrit, même si on l'a rarement dit, oui. Parce que il y a des femmes qui sont, il est vrai, des chanteuses, bon, autrices, tout ça, moi, c'est marrant, oui. On n'a jamais parlé.
C'est drôle, j'ai eu cette conversation avec Lara Fabian, qui a écrit aussi de très bonnes chansons.
Ben, pareil.
Mais mais oui, mais en fait, je pense que vous êtes victime de deux choses. Alors, le patriarcat, qui fait que de toute façon, les gonzesses ne savent pas écrire, qu'est-ce qu'on s'en fiche de ce qu'elles écrivent. Et deuxièmement, vos voix sont trop belles. Donc, en fait, vos voix sont les stars et prennent toute la place.
C'est ça.
Enfin, je pense. Mais donc, c'est bien de le dire qu'effectivement, oui, il y a une folie.
En plus, on a les mêmes initiales avec Lara.
Ah oui, c'est vrai.
C'est exactement.
Il faut monter le club des meufs qui savent écrire, mais personne ne le sait.
C'est ça. Non, mais de toute façon, le temps fait les choses. Moi, je crois beaucoup au temps.
Mais oui.
Le temps, c'est. Il y a une jolie citation qui dit le temps remet chacun à sa place, chaque roi et reine sur son trône et chaque clown dans son cirque.
J'aime beaucoup.
C'est ma préférée.
Ah non, c'est pas ta préférée, tu mens.
Non, c'est pas. C'est ta une préférée, de mes préférées. Ma préférée, c'est Bruce Lee.
C'est Bruce Lee, qui page dit, 287. Voilà. Bruce. Non, mais c'est génial. Non, mais Liane Folie. Évidemment que le biographe de Nougaro, il aurait pas pu écrire ça. Elle dit de toutes les citations, ma préférée est celle de Bruce Lee, dont la traduction française est.
Ouais.
Quand c'est pas facile, ce n'est pas par là. Choisis toujours le chemin de la moindre résistance.
Ouais.
Quelle sagesse.
Non, c'est parce qu'avec l'âge, je me suis rendu compte qu'il fallait jamais forcer les choses, les gens, les situations, les sentiments, encore moins, parce qu'on se plante tout le temps.
Oui.
Donc, quand on veut forcer, ou alors pour faire plaisir, ou alors pour pas faire de la peine, enfin, il y a toujours une excuse. Et finalement, moi souvent, enfin maintenant, aujourd'hui, je suis soignée depuis longtemps. À la cinquantaine, je pense que j'ai vraiment fait une vraie bascule. Quand on a 50 ans, donc on se dit, bon, bah là, voilà, on a besoin de changer.
Ouais.
De plein de choses en soi. Et puis ça passe par là aussi, arrêter de perdre son temps, son énergie, et puis de croire être dans l'illusion. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai terminé à la mort de mes parents. Au décès de mes parents, je me suis dit, bon, j'ai été longtemps dans l'illusion, très longtemps. Et parce que je me racontais des histoires, j'adorais les histoires à l'eau de rose, les contes de fées. Moi, je crois en tout, aux cloches de Pâques, à la cloche de Pâques, à la cloche de souris. Mais oui. Non, mais moi, je crois en tout et aux magiciens d'Oz et voilà. Et qu'à un moment donné, je pense qu'il faut. Il faut mettre l'église au milieu du village.
Je t'écris des mots purs. J'ai gommé. Effacer tes fautes au fur et à mesure. C'est pas de la grande écriture, juste un peu de lecture. Quelques instants volés qui se sont envolés au fur et à mesure.
Écouter au fur et à mesure, et c'est vrai que dès la sortie de ce disque, toi, tu as eu envie de dire que tu le partageais, notamment avec André Manoukian, donc, qui était aussi ton compagnon à l'époque, tu
bien
le
sûr,
racontes.
Et Philippe Viennet, oui.
Dans le livre, voilà.
Mais on était une équipe ailleurs.
Une équipe.
On n'a jamais parlé de cette équipe-là, d'ailleurs. Et c'est pour ça que je l'ai fait dans le livre. Mais oui, parce que Rêve Orange, on dit, il y a une folie, c'est André Manoukian. Non, c'est pas André Manoukian seul.
Ouais.
C'est André Manoukian entouré de super musiciens qui travaillait au studio, Jean-Yves Cassès, Christophe Butin. C'est aussi un super producteur. Rêve Orange, c'est un producteur anglais qui a fait ce disque, qui venait de faire l'album magnifique avec Tina Turner à Londres. Et que c'est lui qui a mis cette patte jazzy. Au fur et à mesure qu'on vient d'entendre, eh bien, on entend des arrangements d'Éric Serra, qui à l'époque vient de faire un carton avec Le Grand Bleu. Ouais. Enfin voilà, c'est toujours. Et on nous a enfermés dans un espèce de truc, le couple, voilà, c'est Pygmalion, alors que c'est pas du tout. Jamais il a été Pygmalion, puisque c'est moi-même qui ai trouvé les rendez-vous dans les maisons disques. J'ai toujours fait la locomotive.
Ça, c'est un passage génial, hein, vraiment, où tu dis au téléphone je suis Madame Folie, j'ai rendez-vous. Et en
Madame
fait,
Folie,
on t'a pris pour une autre
ans.
Folie. Oui. Qui, elle, était pour le coup...
Journaliste.
Et donc, les mecs de la maison de disques ont dit, oui, bien sûr, venez.
Ouais.
Et voilà, il y a plein de scènes comme
ça. Quiproquo sur un homonyme. Enfin,
c'est super.
Ça, c'est le hasard. Tu vois, ça, c'est le... Dans la vie, c'est... Ça, c'était un petit miracle.
C'est le hasard, c'est le destin. Tu crois au destin.
Oui. Oui. Ah bah oui.
Oui, parce que tu racontes que l'obstétricien a dit que t'allais devenir chanteuse. Donc tu crois un petit peu.
Oui, mais si tu veux, tout n'est pas écrit. Ça, je ne crois pas ça.
D'accord.
Je crois qu'on peut tout écrire soi-même, qu'on peut même recommencer les histoires, écrire ouais. son scénario, mais qu'on est, tu vois, je pense qu'on est.
Oui, c'est pas la tragédie grecque où tout est joué d'avance.
Ah non, oh bah heureusement, non. Sinon ça serait d'une tristesse et d'une injustice totale déjà qu'on est dans un monde assez injuste. Donc non, là c'est vraiment que qu'on crée soi-même hein, son propre bonheur, son propre malheur. Finalement, moi je pense que les choix dans la vie sont importants.
Ouais.
Et comme je le dis, le seul moteur que j'ai réellement, c'est l'envie.
Ouais.
L'envie, c'est ça qui mène le monde. Hein. Donc, l'envie, c'est quand on a envie, bah, tout est possible et c'est merveilleux. Alors après, évidemment que c'est difficile de partir d'un orchestre de bal
et de se lancer
à Lyon, Perrache, ouais. fille de droguiste et tout d'un coup faire une carrière, etc. Mais on passe par des étapes complètement différentes et à chaque fois, chaque décennie en tout cas, on avance aussi, on évolue, on s'améliore et on a d'autres problèmes. Moi, j'ai toujours des projets. Et on a tendance en France, d'ailleurs, c'est bon, tu le sais très bien, en étant femme animatrice, que ça y est, la vie s'arrête. À 50 ans, ça s'arrête. Hein.
C'est bientôt.
Non, mais on a l'impression de ça. Moi, je l'ai ressenti terriblement. J'en parle dans mon livre de ça.
Bah oui, mais tu parles du patriarcat, tu parles du sexisme, et
oui.
c'est vrai que pour une certaine partie de la société, à partir du moment où tu peux plus faire d'enfant, tu sers plus à rien.
Alors, je sais pas si ça vient de là. Oui, par rapport à la ménopause, oui,
je pense. Ouais, je pense quand même. Il y a un truc, on devient un peu invisible.
Oui, alors moi, imagine, c'est encore plus difficile. J'ai pas eu d'enfant.
Tu n'as pas fait d'enfant.
Ouais. Donc, ce que je veux dire, c'est que non, moi, je pense. Alors, dans d'autres pays, en Asie, aux États-Unis, d'ailleurs, au Canada, etc., on voit des femmes de 70, de 75 ans qui présentent des émissions à la télé, qui font enfin tout ça. Le théâtre en Chine, au Japon, des actrices qui ont 80 ans, qui sont sur scène. Donc, enfin, et dans notre pays, bah, c'est vrai que c'est moins commun et qu'on range un peu. Peu trop rapidement dans le milieu artistique, en tout cas les femmes et les hommes aussi d'ailleurs. Hein.
Mais en tout cas, il y a de beaux moments là-dessus, sur ce thème-là, dans ton livre, sur ton militantisme qui est pourtant apolitique, sur ton engagement, sur les droits des femmes. Oui, la ménopause, les règles aussi, tes premières règles, t'expliques,
oui,
voilà, mais tu vis ça, mais c'est un cataclysme.
Oui.
Le désir féminin aussi, le désir qui change. Enfin, tout ça, effectivement, il fallait que ça soit toi qui l'écrive.
Ah bah oui, et puis de toute façon, moi j'ai pris le confinement, ça a été quand même, tout le monde s'est arrêté dans le milieu du spectacle, et moi je me disais, ça se trouve, on recommencera pas. Mais quand on se retrouve au tout début, on se dit waouh, qu'est-ce qui se passe.
T'as cru ça, toi?
Oui, le monde s'est arrêté, et donc tout d'un coup on se dit waouh, comment on va faire. Alors moi c'était pas un problème, enfin je veux dire, je l'aurais bien pris aussi, hein, c'était pas. Mais de vivre comme ça chaque jour, d'avoir l'habitude d'avoir une vie à 100 à l'heure, à 1000 à l'heure, de voir des gens, et tout d'un coup, le truc s'arrête, quoi. Et là, je l'ai bien vécu.
Ouais.
Parce que j'ai recommencé, je le raconte d'ailleurs, ce confinement, à retrouver des plaisirs simples, plein de choses que j'avais oubliées, que j'avais pas le temps de faire, et j'ai trouvé ça formidable, dont commencer l'écriture de mon livre.
Exactement. Il s'appelle La Droguerie du Sourire. Il y a plein d'anecdotes.
Oui.
Parce qu'à partir du moment, évidemment, où ta carrière a démarré, t'as croisé tout un tas de gens absolument fascinants. Il y a des rencontres folles. Et il y a des rockstars. Vous croiserez.
Ça, c'est vrai.
Mick Jagger en jogging et David Bowie au marché.
Oui, c'est vrai. Marché nocturne. Alors, j'ai revu ensuite David Bowie. Je l'ai pas écrit dans le livre.
Bah, c'est quoi la suite?
Deux fois, je l'ai revu. En fait, bah, la première fois,
Donc tu le croises au marché, c'est drôle.
Bah, le marché de nuit, le marché de Montmartre.
Oui, de Montmartre. Pardon, voilà. C'est chic. Oui,
oui,
c'était pas au Lidl.
Pas... Je veux dire, c'est pas le marché, voilà. Alors, d'abord, il y avait le jour où j'ai signé Besoin de toi, le premier 45 tours. Il y a une petite fête au 5e étage de chez Sony. Et on me dit, c'est les Rolling Stones qui sortent leur nouvel album. Donc, on m'a carrément présenté en disant, voilà, c'est une jeune Sony signature, voilà. Et il était magnifique et très, très gentil, Mick Jagger. Donc, et après, je l'ai vu en concert aussi.
Ben oui.
Moi, j'ai vu des tonnes de concerts, j'ai vu tout le monde sur scène. Même Michael Jackson, je l'ai vu deux fois en concert. Et donc, en fait, et puis en ce qui concerne Bowie, je l'ai revu sur ce qui s'appelle l'île des milliardaires, où il habitait, ça s'appelle l'île des milliardaires, je crois.
C'est la moustique.
L'île moustique, merci.
Ouais.
Et là, je suis sur la plage et je vois seule, personne sur la plage. J'allais me reposer dans un lieu où on dit, bon là, on aura la paix. Et arrive de loin un couple comme ça. Et je les vois avancer petit à petit. Et plus avant, je dis, waouh, le mec, il est blond. Il était habillé en blanc. Je m'en rappelle toute ma vie. Et ainsi, c'est une black magnifique. Et je dis, putain, c'est David Bowie.
David Bowie et voilà. Iman.
Et j'ai dit, deux fois, je rencontre ce mec-là. Il y a un truc, quoi.
Ouais.
Et donc, il s'était approché comme ça. Hello. Il m'avait parlé, genre, ça va bien? Vous êtes. Je lui ai dit, oui, je suis française. Ah oui, alors qu'est-ce que vous faites dans la vie? Rien. Il vaut mieux.
Alors, si vous avez envie
oui.
de gratter dans les souvenirs de Liane ah oui. Folly pour trouver des méchancetés sur son ex André Manoukian, vous allez être déçu. J'ai cherché moi-même, connaissant bien Dédé, je me suis dit, est-ce qu'il y a une Alors, il y a une picounette ah oui. où à un moment, tu dis, donc une fois que vous êtes séparés et que du coup, bah, tu travailles avec d'autres gens, tu dis, c'était des gens qui étaient très agréables avec moi en studio, ça m'a changé.
Oui, dans ça, ce
voilà,
genre-là, oui.
Voilà, mais donc ça reste voilà, vraiment très calme. Tu, tu règles pas reste... tes comptes, bien au contraire.
Non.
Tu dis que même à un moment, t'as voulu que cette brouille qui fait que deux personnes qui ont été amoureuses puis qui le sont plus, qui sont séparées, sont vaguement fâchées. Toi, tu voulais que la fâcherie elle s'arrête et t'as activement travaillé pour vous rabibocher.
Alors en fait, c'est très simple. Nous avons ensemble réalisé trop de belles choses pour que ça finisse en eau de boudin et que tout d'un coup, voilà, et c'est le public aussi. On a le respect, c'est ce que je lui ai dit, il faut avoir le respect du public. Ils ouais. ont aimé notre travail ensemble. Il y a 3 albums magnifiques qui existent, qu'on a fait ensemble. Et eux,
c'est
ils
vos
ont
3 gosses.
Envie. Voilà, c'est nos 3 enfants.
Bah ouais.
Et il faut que, voilà, qu'ils soient... donc personnellement, c'est moi qui ai fait le premier pas, parce qu'il est vrai que j'ai été un peu rangée comme ça dans la vie d'André. J'ai encore... Ouais. Oui, en décembre dernier, il y avait, je l'ai vu dans une émission de télé, La Boîte à Secrets,
oui.
voilà, où on parle des gens. Et il faut le faire quand même, hein, ça c'est énorme. Bravo à la production, formidable, pour mettre 10 ans de vie avec Liane Folly, 3 albums comme ça et ne pas en parler.
C'est-à-dire, aïe, aïe,
on ressent André
Manoukian.
Ben, moi j'ai trouvé ça un peu parce que je l'ai vu cette émission et je me suis dit
ça t'a fait de la peine ou pas
non, j'en suis plus là hein, non.
Ouais.
Non, le métier me fait plus de peine du tout. Au contraire, ça me fait rire.
Et tu fais,
je me suis dit, mais bravo, quoi. Ouais. Comment les mecs, ils peuvent passer à côté, qui a été le plus grand succès de sa vie. Il n'a plus jamais eu un tel succès avec une chanteuse.
Non.
Donc c'est pour ça, pour toutes ces choses-là. Et donc, il y a un an, le jour de son anniversaire d'ailleurs. Mais il est très heureux, hein, ça se passe bien. On a encore passé une journée ensemble la semaine dernière. Il est très heureux qu'on se revoie. On a des bons liens. Et puis, peut-être, va savoir, comme dit ma très belle chanson. Peut-être qu'un jour nous collaborerons ensemble.
Mais je vous le souhaite.
Si sa femme est d'accord.
Ah oui, c'est ça. Attention, hein. On va pas semer la zizanie. C'est un bonheur de t'entendre, Liane.
Merci
c'est
beaucoup.
Un bonheur de te lire La Droguerie du Sourire, donc aux éditions Stock.
Oui.
Et moi, je trouve que c'est un film. Tu fais ce
oui,
que tu
vrai.
Veux de cette
Mais
remarque.
Quelque part, voilà. On va dire que c'est dans le
voilà
dans l'atmosphère.
J'en ferais même 2 si j'avais un budget illimité à l'eau Hollywood, parce que je ferais le film de la rencontre de tes parents, etc. En Algérie, leur arrivée en France et tout. Et puis ensuite, deuxième partie, ta vie à toi.
Tu veux dire un biopic télévisuel ?
Ouais.
Une fiction ?
Ouais, ce serait bien, non ?
Ce serait pas mal. Ou
on
alors un grand film, ouais, ça
grand
dépend.
Film. Bon, ben, on se revoit pour ça, Liane.
Mais absolument.
Merci beaucoup d'être
Merci
venue.
Beaucoup,
moi.
Émilie. Merci. C'était un bonheur pour moi d'être avec toi ce soir. Et j'embrasse tous les auditeurs, évidemment.
Merci. Merci, Liane. À bientôt.
Les essentiels de Décibel, une collection de podcasts à retrouver sur ici.fr et l'appli Radio France. Mais qu'est-ce qui vous a amené jusqu'ici ?
Peut-être parce qu'on parle de vos vies, parce qu'on est utile, parce qu'ici, on sourit.
Alors, même si vous n'êtes pas d'ici, même si vous êtes loin d'ici,
il n'y a pas mieux qu'ici. Vous êtes les bienvenus.
Actu locale, musique et bonne humeur, la nouvelle saison d'ici. Votre radio locale.
Plus de vous.
Plus de nous.
Plus de vie. D'ici.
Ici, média officiel du grand départ de la Vuelta 2026. Rendez-vous le 22 août à Monaco pour la grande fête de présentation des coureurs, la première étape contre la montre et de nombreuses animations. Et venez vivre la mythique course sur le bord de la route et faire le plein d'émotions. La Vuelta, un événement ici du 22 août au 13 septembre.
Ici, les essentiels de Décibel. Émilie Mazoyer et Taïk.
Un artiste atypique et polymorphe, aussi à l'aise dans un concert de rap que sur le plateau de Danse avec les Stars et The Voice. Il est aussi très à l'aise dans mes playlists, croyez-moi. Il vient de sortir, Taïk, son deuxième album, Joya. Il est le seul artiste en France à pouvoir, sur un même disque, inviter Lara Fabian et Aya Nakamura. Il chante, il danse, il brille à la télé. Il collectionne les disques d'or et de platine. Taïk est la définition du mot inclassable. Et vous allez adorer le rencontrer. Il est ce soir pour la première fois dans Décibel.
Salut.
Bienvenue dans Décibel. On est
Merci.
Super content de vous accueillir.
Super content d'être là.
Alors, vous avez cartonné que votre premier album en 2020, Fleurs froides, disque de diamant, ça veut dire plus de 500 000 exemplaires vendus.
Ne gaspille pas autant d'idées. Oh, le temps m'a réparé. Plus rien n'est comme avant. Quelqu'un m'a déjà.
Je tente des petits moves de danse.
Ah, tu gères.
Que le haut du corps. Hein.
Tu gères. Ça suffit, les épaules, c'est bon.
L'année suivante, en 2021, vous remportez Danse avec les Stars, avec Faux Voto. Et puis en 2024, un album en commun avec Dadju. Il s'appelle Héritage. Et là encore, magnifique disque de platine, plus de 100 000 exemplaires vendus. Concert à Bercy ou encore à Paris, La Défense Arena. Et puis cette année, Taïk, c'est aussi une grosse année télé avec The Voice. Vous êtes dans le jury aux côtés de Florent Pagny, Lara Fabian et Amel Bent. Ouais. Première question, ça va ? Bonne année 2026.
Franchement, elle est belle, elle commence bien. Enfin, ouais. Elle est dans un beau milieu. On est content, on reste focus et on veut encore plein d'autres belles choses.
Ouais, la détermination, ouais. Le focus, ouais. La concentration, ça, je pense que c'est vraiment un mot-clé important quand on parle de votre parcours. Vous êtes né à Marseille en 1996.
Ouais.
Donc, c'est la même année que Kenji, Oshi et Oli de Big Flo.
Ouais, c'est vrai. Oli, je savais. Ouais. Kenji, je savais. Ouais.
Bon cru, non, franchement.
Pas mal.
Vous êtes arrivé à Paris à 16 ans, ouais. Tout seul en pension pour faire de la musique,
non,
ou pas forcément?
Ah non, pas du tout, pour essayer justement de me réinsercer un peu, parce que je m'étais fait virer moi de mon lycée.
Aïe.
Pas parce que j'étais un mauvais garçon, mais parce que je dansais à l'époque et du coup je séchais énormément les cours. J'étais danseur, donc répétition, concert, on avait déjà des prestations et tout, et l'école c'était vraiment tertiaire pour moi.
Ouais, c'était pas la priorité.
C'était pas la priorité.
Le focus, le fameux.
Exactement, ouais. J'étais focus mais sur autre chose. Et je me suis fait virer de mon lycée à quelques semaines de la rentrée, donc impossible de trouver un autre bahut à Marseille qui fasse encore des inscriptions. Donc ma mère a fait des pieds et des mains et elle m'a trouvé un bahut à Paris. Et je suis parti à Paris.
Et alors finalement, c'est la fameuse expression, c'est un mal pour un bien.
Un mal pour un bien m'a sauvé la vie.
Ah, parce que donc à Paris, tout seul à 16 ans,
ouais.
Et au lieu de faire des conneries, vous trouvez votre
voix. Je trouve ma voix, ouais. Dès le premier jour où on arrive à l'internat, il y a une visite groupée. On est, une trentaine de petits jeunes qui visitons l'internat pour la première fois. Et on passe de salle en salle, salle de sport, truc, machin, baby-foot, patati patata, salle de cinéma et tout. Et après, il nous amène au studio, et là, moi, c'est une révélation.
Un studio de musique, hein.
Ouais. C'était juste incroyable à mes yeux. Je suis rentré dans une espèce de transe où j'avais plus personne autour de moi, et je crois que même la visite, je l'ai pas continué, moi. Moi, je suis resté, je crois, dans le studio, en disant aux autres, finissez, moi, je veux discuter avec ce monsieur qui s'appelait Vince Marshall, et qui est pareil, aussi un des gars qui a sauvé ma vie.
Un
ingé son beatmaker, ouais. Producteur, ouais. Je voulais juste le regarder travailler. J'aimais le voir travailler sur son piano. Il était pianiste aussi, tu vois, compositeur.
Ouais.
Et je m'asseyais pendant, je pense, 3-4 mois. Je m'asseyais juste dès que j'avais 30 minutes de pause, une heure de trou ou quoi. Ou même à la fin des cours, puisque je dormais sur place, moi, à l'internat. Avant de rentrer, je passais le voir et je restais une heure, deux heures avec lui, je le regardais.
C'est dingue. Ouais. Ça donne envie de se poser des questions sur le destin ou sur, je sais pas, la prédestination. En fait, il y a les cellules de votre corps,
ouais.
Quand vous êtes rentré dans le studio,
qui
elles
sont
vous ont
activées,
dit,
ouais.
T'es chez toi.
Exactement. Qui sont dit, t'es chez toi.
C'est fou.
Ouais, c'est ça. Et je me sentais pas mieux ailleurs que là-bas.
Alors, il y a une année assez charnière dans votre carrière, TAIC, c'est 2017, donc c'est finalement 5 ans après votre arrivée à Paris, hein, donc voilà, ça va très très vite. C'est l'année où vous tentez Nouvelle Star. There's no need to wear these shades when I try. Avec votre petite voix de bébé. Avec Benjamin Biolay, ouais. Manou Kian, Élodie Frégé et Hélène Ségara dans le jury, il fallait pas avoir la trouille.
C'est ouf.
Bon souvenir, ça.
C'est un bon souvenir, ouais. C'est une belle revanche entre guillemets, puisque ça m'a pas empêché d'y croire, même si j'ai pas passé les qualifs entre guillemets.
Vous êtes allé au théâtre, hein.
Je suis allé au théâtre quand même. C'est la manche d'après, donc ça va, c'est cool. Malgré ça, j'ai continué. Pas une seule seconde, je me suis dit que ça m'abattrait, tu vois.
2017, c'est aussi l'année où vous sortez vos premiers sons, notamment Baby Motion. Avec que je pourrais winner 100 fois. Encore une fois, les enfants, notez bien, 5 ans auparavant, il n'était jamais rentré dans un studio. C'est fou quand même. Non, mais c'est génial. Et puis, c'est l'année aussi où vous décrochez un prix assez dingue que peut-être vous n'attendiez pas. C'est la publicité la plus vue sur YouTube en 2017. C'est une pub que vous n'avez pas oubliée, évidemment, les amis.
Il faut pas.
Les Babybel se parlent entre eux.
Quand même.
Et Taïk, c'est genre le plus beau des Babybel.
Hey, vous êtes pas un peu ramolli de la coque, les gars? C'est moi, Mini Roulé.
Voilà. Et c'est une des premières fois que vous gagnez des sous.
Ouais, c'est le premier.
En chantant, n'empêche.
Exactement, en faisant ce que j'aime. Bon, à l'époque, c'est pas de la musique, mais c'est déjà ça. Je suis en studio, j'ai un casque et j'entends ma voix et rien que ça, ça me fait plaisir. Et je prends une petite somme ridicule à l'époque.
Mais n'empêche,
j'arrive quand même à gagner ma petite vie avec ça. À m'acheter une petite paire de baskets ou deux. Et c'est déjà ça. Et en fait, le truc, c'est que je me suis dit, je peux déjà commencer à gagner un peu de sous avec ce que j'aime faire.
Ouais.
Et ça aussi, pareil, ça a été un moteur de persévérance, j'ai envie de dire.
Et alors, le Taïk d'aujourd'hui, celui qui remplit les immenses salles de concert, celui qui va même aller jouer en Angleterre, aux Pays-Bas, en Allemagne, pas très longtemps, et les disques de diamant et de platine, et ce deuxième album, Joya, ce Taïk-là d'aujourd'hui, s'il pouvait aller taper sur l'épaule du Taïk en studio qui fait mini-rouler, qu'est-ce que vous lui diriez?
Lâche rien, gamin. Lâche rien et entoure-toi bien. Non, fais ce que t'as fait. Tous tes échecs et toutes tes réussites ont fait ce que t'es aujourd'hui, donc... Lâche rien. Et je pense qu'il n'aurait rien de spécial à lui dire, puisque celui d'avant, déjà, aurait dit à celui actuel, t'inquiète pas, je gère. J'ai toujours été très, très, très confiant et prétentieux, même sur le fait que ça va marcher, les gars. Je ne me donne pas d'autre plan. Faire confiance au plan A et surtout pas envisager un plan B, c'est tout miser sur le A.
Oui, c'est
donc,
ça.
Donc, je préfère ça. Je préférais vraiment me mettre à 200% sur le A sans me dire, au cas où, si ça ne marche pas, je ferais peut-être. Non, il n'y a pas de je ferais peut-être autre chose.
Il faut que ça marche,
tu vois.
Et ça a marché.
Et ça a marchouillé.
Marchouillé, come on. On va écouter un premier extrait de ce nouvel album, Joya. Puis après, on se plongera dedans, parce que Joya, alors oui, vous êtes tous bilingues à la maison, vous dites, c'est bon, on sait, ça veut dire joie. Ça ne veut pas dire que ça. Vous allez apprendre plein de trucs. C'est un duo avec Lara Fabian, qui s'appelle Je te pardonne. Et alors Lara, elle est comme ça. C'est comme Beetlejuice, on dit trois fois son nom, elle apparaît. Lara.
Salut mon Taïk, t'es Taïk. Je voulais te laisser ce petit message pour te dire à quel point j'ai eu de la joie et à quel point ça a été sucré, salé, épicé et franchement magique d'être à tes côtés sur ce fauteuil rouge que tu as rendu unique et vibrant. Ton arrivée a créé de véritables secousses et je crois qu'on a tous été bouleversés positivement par ta présence. Je te souhaite le meilleur à chaque étape. Tu es grand, inspirant, puissant, magnifiquement talentueux. Et ça a été une vraie joie et un vrai privilège de chanter à tes côtés dans cette chanson qu'on a écrite et qu'on a fait briller partout. Je t'embrasse et je t'adore.
Incroyable.
Elle est si belle quand elle parle, elle est si belle quand elle, dans tout ce qu'elle fait, c'est si poétique. Quel respect. C'est fou, ça, c'est un truc qui peut vraiment me toucher plus que n'importe quelle salle remplie. C'est de vraiment susciter le respect de légende comme ça. Et je sais que ces mots, elle les pense. qu'elle a reçu aucun virement pour faire ce message vocal.
Ah non, nous, nous aurons envoyé balader. Je vais vous raconter la coulisse du truc, hein, Taïk. J'ai envoyé un email à 15h02. Ouais. À 15h08, j'avais le message dans ma boîte mail. Elle vous adore.
Ah non, ça adore vraiment beaucoup. C'est un vrai coup de foudre, mais comme elle le dit, ça a été sucré-salé. C'est parce que moi, j'ai une énergie qui est pas forcément celle qu'elle connaît à la base. Je viens avec cette énergie-là dans l'émission.
Donc The Voice,
qu'on a fait ensemble. Et on cherche nos points de calibrage, on se calibre. Et il y a des endroits où ça s'effrite et tout, et on le voit dans l'émission.
Ouais.
Et en fait, ça a été vraiment comme un premier meilleur ami avec qui tu commences par une bagarre, en fait. Vous commencez par vous chamailler, ça finit par être ton âme sœur, ton ami de toujours. Et c'est un peu ça. Avec Lara, et ouais, elle est exceptionnelle. Ces mots me touchent réellement et venant d'une légende vivante comme elle. C'est fou à 30 ans de recevoir des éloges pareils d'elle. Donc vraiment merci. Et merci à elle de m'avoir fait cet honneur surtout.
De chanter ensemble, avec moi, je te pardonne.
Ah oui, ça a même pas été une négociation. Elle l'a fait direct. Elle est venue jusqu'à chez moi. Tu vois, je te cache pas que j'étais à deux doigts de prendre une photo discrètement de Lara chez moi dans mon salon, histoire que mes enfants sachent que je suis pas n'importe qui. Mais je te jure, quel respect. C'est une vraie queen. C'est ça que j'appelle une vraie reine, une vraie queen. C'est de se mettre des fois un peu au niveau d'un jeune comme moi, artiste, qui a encore plein de choses à prouver et de lui dire, t'es inspirante et c'était une vraie joie d'être à tes côtés. Rien que ça, c'est bon, je peux rentrer.
Si Dieu nous a pardonné, dis-moi qui suis-je pour ne pas en faire autant, ne pas en faire autant. Oh. Tu m'as volé tout ce que j'avais, tu m'as détruit. Je ne peux plus faire semblant, je ne peux plus faire semblant.
Mais je sais, vous êtes dans un état pas possible à la maison, moi aussi. Alors, Gioia, ça fait penser au mot joy, à la joie. Mm-hmm. Ce qui déjà, avant même d'aller plus loin que ça, en 2026, dans une société qui est justement pas pleine de joie, c'est déjà un parti pris intéressant de dire je vais du côté de la joie, je vais du côté de la lumière.
Bien sûr, et surtout avec le message qu'il y a derrière, c'est que Gioia, c'est quand même un message venant d'un esclave, du dernier esclave, donc qui a subi quand même et vécu peut-être l'une des pires horreurs du monde et qui, malgré ça, en tire une revanche intérieure de joie, quoi, de dire que malgré tout ce qu'on m'a fait subir, j'ai gardé cette joie et ça, on peut pas y toucher.
Ça me fait penser à l'époux d'une des victimes des attentats du Bataclan, qui avait écrit un très beau texte qui disait « Vous n'aurez pas ma joie. »
Ouais, vous n'aurez pas ma tristesse, tu veux dire.
Vous ne prendrez pas ma joie.
Je me rappelle.
Et en fait, on va écouter. Ouais. On va écouter votre voix. Donc, c'est le prologue. On est le 2 mai 1826, c'est sur l'album. Ah, je vous ai dit, on voyage même dans le temps. Et donc, on est avec ce personnage qui s'appelle Gioia, alors qui est un personnage fictif, mais qui forcément existe.
Il relate une vérité. Voilà,
c'est le dernier esclave américain.
Je m'appelle Gioia et j'ai fêté mes 43 ans le 2 mai 1826. J'ai vu ma femme mourir sous mes yeux et mes filles ont été déportées dans une autre plantation il y a 3 ans. Souffrir. Ils ont arraché mon cœur à plusieurs reprises et ils m'ont tout pris. Mais ils n'ont jamais ébranlé une seule seconde ma foi. Je m'adresse au nouveau monde. J'ai rampé jusqu'à ce que mes genoux saignent pour que vous puissiez marcher la tête haute aujourd'hui. Et j'ai pleuré chacune des larmes de mon corps pour vous voir rire aux éclats un jour. Alors priez, mes fils, régnez sur ce monde, mes filles, et ne perdez jamais, au grand jamais, ce trésor que Dieu a mis dans nos cœurs, la joie.
L'éloge de la joie par Gioia. L'album, il est...
Très fier d'avoir fait cet album, quand même, quand je t'entends parler comme ça. Je sens que c'est sincère en plus, venant de toi.
Oui, vraiment, parce que c'est épatant de se dire, il va prendre le temps
d'aller là-bas,
d'aller dans cette histoire-là, raconter, faire des pauses dans l'album. Ouais. J'ai envie de comprendre comment c'est né tout ça.
Ben, c'est né d'une année 2024 où je perds un frère. Je perds mon frère de toujours, mon frère d'armes, qui décède noyé catastrophiquement comme ça un été le 3 août 2024.
Ouais.
Et lui, il me parlait souvent de ma musique. Il fonctionnait aux émotions beaucoup et il aimait cette musique émotionnelle que je mettais. Le taïk hit, le taïk tout droit, le temps n'y pense plus, ça lui faisait rien, tu vois. Et il me disait, moi j'aime quand tu m'emmènes dans des histoires, j'aime quand tu fais comme quand on était petit et que tu t'inventes des trucs de ch'tarbé et qu'on s'y prête. Et il me parlait de ça à chaque fois et quand il s'en va, malheureusement, moi je comprends plus rien à la vie. Pendant un long moment, j'ai plus envie de rien parce que ce rapport à la mort, il a toujours été assez intense chez moi et perdre un frère comme ça que je n'aurais jamais imaginé. Il n'était pas malade. C'est pas comme si c'était un long combat où on a pu peut-être éventualiser le fait
se faire à l'idée.
Se faire à l'idée que peut-être il partirait. C'est voilà. C'est du jour au lendemain. La veille, on devait faire un barbecue.
Hyper violent.
Très violent. Donc c'est un truc dont tu t'y remets jamais, je pense. Et donc, j'ai plus envie de rien. J'ai plus envie de musique. J'ai plus envie de chanter. J'ai plus envie de public. J'ai plus envie qu'on parle dans la rue. J'ai plus envie qu'on crie mon nom. J'ai plus envie de rien. J'ai plus envie de chanter. Et des fois, quand tu sais plus trop où tu vas, quand t'as plus envie de rien, faut des fois revenir de là où tu viens. Et j'ai passé quelques temps au Cameroun, en fait. J'ai passé un petit moment au Cameroun, chez moi, parce que je m'étais arrêté, donc j'ai arrêté un peu de faire de la musique pendant 8 mois. Et pendant ce temps-là, j'étais au Cameroun pendant un temps. Et c'est là-bas où on m'a raconté cette histoire, en fait, de ce Joya, tu vois, dans un village, tu vois.
Ouais.
On m'a raconté l'histoire de ce Joya et ça m'a bouleversé de se dire que même lui et même eux, à cette époque-là, qui ont vécu des choses horrible, bien pire que la mort, j'ai envie de te dire. Ils ont décidé de quand même garder leur joie. Et je me suis senti tout nul, tout con à me dire, en fait, toi, avec ta douleur qui est immense aussi, comment tu veux t'arrêter là? T'as 29 ans. Tu veux t'arrêter? Tu sais plus où aller? Comment ça? Non, ça n'existe pas. Mais je voulais pas revenir avec un album comme ça. Et en plus, ce qu'il y a de fou, c'est qu'après Fleur Froide et après Héritage, je savais plus trop qu'est-ce que je voulais raconter. Héritage, c'était beau, c'était un album événement, c'était avec Dadju, donc on n'avait pas besoin d'en faire trop. Juste lui et moi sur scène, c'était déjà fort. Mais là, revenir solo, j'avais pas envie de revenir en lover, en crooner encore, qui raconte des histoires d'amour et tout. Bien sûr que je le ferai toujours, mais il y a quoi derrière? Et puis après, j'ai eu mes deux gosses aussi, j'ai eu deux garçons. Et ça aussi, je me disais, qu'est-ce que t'as envie que tes enfants disent si demain, toi aussi, subitement, tu t'en vas? Qu'est-ce que t'as envie que ton public se dise si subitement, tu t'en vas? Et qu'est-ce que t'as envie de laisser comme trace dans
ta carrière? Mais alors ça, c'est terrible, parce que c'est pas anodin. C'est se dire, je sors un disque et possiblement, c'est la dernière trace que je laisse sur terre.
Ouais, de ouf. Et c'est le dernier. Chaque nuit, je pense qu'il faudrait se dire ça. Il faudrait se dire, est-ce que j'ai bien dit à ma femme que
on
je suis désolé?
On ferait moins de conneries, oui, c'est
est-ce
vrai.
Que j'ai bien dit à ma mère que je l'aime? Parce qu'il y en a plein qui se réveillent pas. Et depuis le début de l'émission jusqu'à maintenant, il y en a beaucoup qui sont pas réveillés et qui viennent de nous quitter, tu vois. Donc, je veux pas être trop morose, mais c'est une vérité, tu vois. Il faut se le dire. Donc, je me suis dit, si tu racontes un nouveau truc sur un album, sois prêt à raconter quelque chose de noble. Et on s'en fout des hits, on s'en fout des chiffres. De toute façon, c'est pas un truc que tu as cultivé. Raconte quelque chose dont tu seras fier. Et quand je suis devant toi là tout de suite, franchement, je me dis que j'ai fait le meilleur choix de ma carrière parce que ça tombe quand même dans l'oreille de certaines personnes, ça tombe quand même dans des cœurs qui comprennent et qui ressentent. Et ça c'est la plus belle des choses pour moi.
On va parler d'amour parce qu'il y a ce concept d'Afro Love.
Bien sûr. Qui était,
voilà,
la colonne vertébrale.
C'est ça, de la musique sur le premier album. Et voilà, l'Afro Love est toujours là sur le deuxième. Il n'est pas tout seul, mais il se passe des choses.
Exactement.
Et alors, je le disais, c'est dingue parce qu'il y a plein de façons d'envisager évidemment les histoires d'amour. Il y a cette chanson, la même histoire. Écoutez, les amis, si vous êtes assis, allongez-vous immédiatement.
Raconte-moi la même histoire encore, fais-le encore. Une histoire où les draps sont en soie et tes robes seront en ivoire. Encore, fais-le encore.
Yeah. Une chanson extrêmement
langoureuse,
sexy, lascive, langoureuse. Voilà. Mais l'amour, c'est aussi fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Aya Nakamura.
Plus tu t'éloignes de moi, et bien plus je t'aime. Je t'ai dit non, mais ton amour reste le même.
Plus tu t'éloignes de moi, bien plus je t'aime. Je t'ai dit non, mais ton amour reste le même.
vos histoires d'amour compliquées, ça fait des meilleures chansons?
Je pense pas. Je sais pas, honnêtement. Mais moi, j'estime qu'aujourd'hui, le succès aussi de mes chansons, c'est qu'elles sont vraies, qu'elles sont pas juste toutes belles, toutes roses, et basées sur de l'idyllique. Je pense qu'il y a des fois où justement, va loin, en fait. Là, tu me casses la tête et peut-être que je t'aimerai après. C'est, ça se dit pas, c'est pas gentil, mais c'est la vérité. C'est ce qu'on ouais. ressent des fois. Il y a Daevin aussi, je pense que je te spoil un peu. Enfin, je te
ah
devance
oui, je vais
un
le
peu,
passer,
mais
hein, Daevin, ouais.
où là, c'est d'une sincérité qui.
En même temps, c'est génial. Daevin, c'est marqué sur la liste des chansons, ouais. entre parenthèses, interdit aux femmes.
Ouais.
Qu'est-ce que j'ai fait?
Non, c'est
eh
que
ben, je suis allé l'écouter.
Ok. Je pensais que tu disais qu'est-ce que j'ai fait. Bah oui, je savais. C'était aussi un clin d'œil pour dire interdit, mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous ruer dessus, forcément.
Évidemment.
Bah oui, tu vois.
C'est, en vrai, c'est la première que j'ai écoutée.
C'est vrai? C'est dingue.
Après, je l'ai remis dans l'ordre. Donc voilà, interdit aux femmes, mesdames.
J'adore ma femme, ce n'est pas le sujet. Mais son fruit défendu n'est pas si sucré. Je lui ai donné plus que ma vie. Mais la nuit, moi, je m'ennuie. Comment me justifier? Elle a surgi tel un justicier. Oh, my door. She knocked it on my door. And she laughed.
Ah, elle s'apprête à faire une connerie.
Ouais,
c'est comme ça.
C'est ça, c'est la vie. Ah, c'est la vie.
Oui, alors c'est la vie. Et à la fois, j'ai bien aimé aussi dans vos textes l'idée que les femmes ne sont pas forcément celles qui attendent à la maison le mari qui, un peu lassé finalement, va se taper la voisine. On a aussi des filles qui cherchent des histoires sans lendemain.
Elle est fatiguée. Elle a eu mal, 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 trop souvent mal. Elle ne veut pas guérir. C'est trop difficile. Elle ne veut pas mentir. Promesse inutile. Donc tous les lundis soirs, elle prend son téléphone et appelle Monsieur Kenny Boy. Ooh, Kenny Boy.
Celle qui n'a jamais envoyé un petit texto à son candy boy me jette la première pierre. Donc c'est complexe,
en fait, c'est complexe. Bah oui, c'est riche. Ouais. C'est plein de choses, tu vois, justement. Oui, les femmes ne sont pas seulement là à attendre leur chéri, elles ont aussi leur entre guillemets, leurs vices, leurs envies, leurs trucs. C'est pas que les hommes qui sont les méchants, et c'est pas que les hommes aussi, des fois, qui peuvent avoir des envies un peu charnelles. Et ça, je trouve que c'est le bon équilibre dans l'amour et dans mes textes, c'est que personne n'est délaissé, il y a de la musique pour tout le monde, et je suis toutes ces choses-là aussi. J'ai vécu des histoires très langoureuses, très romantiques, et j'ai vécu des histoires sales, entre guillemets. Et je les mets en chanson, honnêtement, je suis pas là pour mentir aux gens, et Candy Boy, ouais, ça part d'une discussion avec mes danseuses de l'époque. Et en fait, j'écoute, et tu sais, ma musique, elle vient de discussions comme ça, à la chicha, peu importe, comme ça, où on discute, et je me dis, mais en fait, c'est trop vrai. Et ça a le mérite d'exister sur une chanson, cette histoire, tu vois.
Ouais.
Donc voilà, ça donne joya. Et depuis que tu défiles les chansons, ça fait longtemps que j'avais pas réécouté cet album, depuis qu'il est sorti, je crois. Et je suis très, très, très content de ce qu'on a fait avec l'équipe. Je veux vraiment saluer tous les compositeurs et toutes les personnes qui m'ont aidé à faire cet album. On parle pas assez d'eux en interview, je pense. C'est très important de faire même une émission autour de ça, des compos, des mecs qui suivent un peu la folie des artistes, tu vois.
Ouais.
Quand j'arrive et que je dis à Black Do, en l'occurrence, qui a fait ce titre, je veux raconter ça, il me dit, mais t'es un malade, allez, on y va. Clink, 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 clink. Tu vois, mais c'est ça, suivre un artiste comme ça, fêlé comme moi, en plus. Je salue ces gars-là et je leur dis merci et merci encore et de me lâcher jamais, les gars, parce que vraiment, on a fait un album de Gueda.
Ouais. Bravo, je sens
merci.
Que vous êtes inspiré partout et je crois que c'est providentiel et qu'il faut continuer à avoir vos oreilles et vos capteurs grands ouverts et nous raconter plein de choses.
Je veux.
Je vous souhaite une belle et
merci
bonne
infiniment.
Et longue route.
Très gentil.
Merci Taïk, à bientôt.
Merci à vous.
Les essentiels de Décibel, une collection de podcasts à retrouver sur ici.fr et l'appli Radio France. Ici, votre radio.
Prenez le temps. Tiennent la main, ça n'a rien qui peut gêner la morale. La
où leur doute s'installe. C'est que ce geste se fasse sous la table quand elles sont seules, comme elles n'ont rien à perdre. Après les mains, la peau de tout le reste. L'amour qui est secret, même une huée ne pourrait le cacher. Alors sous les yeux des autres, dans la rue, le déguise en amitié. L'une des deux dit que c'est mal agir. Les juger. Je ne veux pas jeter la première pierre. Et si en poussant la porte, je les trouve bouche à bouche dans le salon, je ne donnerai pas l'audace de tousser. Si ça
Chansons préférées toute la journée,
c'est ici.
Things aren't quite as they seem. Everything, only pleasure and pain. You wonder why I come here, head to my hands. Where else can I be cured? And the king of your mansion, a bone in your side, and a child to protect.
Affection.